Alors bonjour Daniel, c'est France 3 Alsace, nous on est en grève aujourd'hui comme le reste de l'audiovisuel public. On est resté à Strasbourg et on est en train de tracter sur le marché. On a pris pour ça un grand corbillard, on est derrière lui et on essaye d'expliquer pourquoi le service public audiovisuel est en train de crever. Enfin, la commission Copé, pour nous, elle est en train de siphonner l'argent du service public pour le donner au secteur privé avec toutes les recettes publicitaires. Et on a, nous, déjà pas assez d'argent pour tourner. On essaye d'expliquer tout ça. La télévision publique, c'est celle de tous les Français, c'est pas simplement celle des gouvernements d'un moment. Alors on se bat. Allez, à plus, ciao.
Oui, salut Mermet. Puisque nous sommes tes auditeurs, ça serait bien que tu nous expliques pourquoi tu fais grève. Voilà, pourquoi tu fais grève? Explique-nous, puisque c'est nous les auditeurs, donc tu dois nous dire pourquoi tu fais grève. Voilà. Donc, à éviter le coût du service public, pour plus de services publics, hein, parce que 2 jours de grève, ça fait 2 jours de service public en moins. Donc, moins, c'est le contraire du plus. Hein. Voilà, donc explique-nous clairement, quoi, hein, sans langue de bois. Voilà, merci.
Comment compenser la perte de la pub de l'audiovisuel? C'est bizarre, quand GDF augmente ses tarifs 2 fois par an, l'État ne se pose pas la question de savoir si nous avons les moyens de payer cette augmentation. Non, c'est une multinationale, c'est Suez, des actionnaires. Le gouvernement donne son approbation sans hésitation. Mais quand il s'agit d'un service public, ça grince. Les Français n'ont plus les moyens de supporter une augmentation de la redevance. C'est comme d'habitude, on détériore un service public, on dit ensuite qu'il est médiocre, et on le privatise, comme la sécu, l'enseignement, les hôpitaux, etc.
Bonsoir Daniel, alors Hugo de Caen. Là j'appelle, je viens de voir une belle publicité à la télé. Aéroport de Paris, le monde entier est notre invité. Donc il faudrait absolument le dire aux blaireaux qui se cachent sous les camions hein, pour essayer de passer les frontières, parce que ils se sont trompés, hein, ils peuvent passer par l'aéroport. Allez, bonne soirée.
Je suis une auditrice de France Inter et plus particulièrement là-bas si j'y suis. Mais je viens de lire sur le Canard Enchaîné que France Inter a fait un contrat assurant un certain nombre de diffusions à Madame Sarkozy qui va couiner la chansonnette, donc un nombre de fois certain sur France Inter. Je pense pas que le rôle d'une radio nationale soit de sponsoriser la chansonnette des époux et conjoints du président de la République. Donc, par mesure de rétorsion, je n'écouterai pas France Inter pendant un mois, qu'on se le dise. Merci, au revoir.
Bon, même si je m'y attendais, je suis heureux de voir que l'équipe de la Bastille est en grève. Moi-même, je tenais beaucoup à aller à cette manifestation. J'ai pas pu parce que je suis de garde, là. C'est-à-dire, ma mère ne pouvait pas rester seule toute la journée, ou une grande partie de la journée. Je regrette, mais je pense que ce n'est qu'un début, que ça ne peut pas s'arrêter à cette simple journée. Parce que le pouvoir qui est actuellement en place a perdu, pour moi, toute légitimité. C'est un pouvoir qui n'a d'autre but que de détruire la société au profit d'intérêts de quelques-uns. Et cette légitimité qu'il revendique sans doute parce qu'elle est sortie des urnes, il ne la respecte que quand ça l'arrange, puisqu'il ne respecte, ce même pouvoir ne respecte pas le verdict des urnes quand il va contre ses projets. On l'a bien vu à plusieurs reprises, avec par exemple le référendum sur le traité constitutionnel, puis sur le traité de Lisbonne en Irlande. Bon, ça, voilà, je pense que ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut les foutre dehors, quoi. Voilà. Une deuxième chose à dire. Il se trouve que hier, j'ai acheté L'Humain et j'ai trouvé un texte absolument fantastique d'Evo Morales. C'est-à-dire qu'il est un président de la République aussi. Alors c'est vraiment une autre image du pouvoir. Un texte dénonçant la directive retour qui a été pondu par la fameuse Union européenne. C'est un texte extraordinaire. Je le conseille à tout le monde de le lire. Et ce type-là, Morales, bon, c'est le seul président au monde que j'aime en fait. Hein. Il y en a peut-être d'autres qui sont aussi bons que lui, mais je ne les connais pas. J'extrairai simplement cette phrase. Promouvoir d'un côté la liberté de circulation des marchandises et des flux financiers, alors qu'en face, nous voyons des emprisonnements sans jugement pour nos frères qui ont essayé de circuler librement, Cela est nier les fondements de la liberté et des droits démocratiques. Et puis, il y a sa conclusion. Recevez tous, autorités, eurodéputés, camarades, un fraternel salut depuis la Bolivie, et en particulier, notre solidarité envers tous les clandestins. Alors là, on commence à espérer un peu. Voilà. Quand un chef d'État est capable de conclure avec ça, avec la solidarité envers tous les clandestins, on se dit que le pouvoir, il peut en effet être autrement. Et il y en a marre, mais vraiment marre de ces, je sais pas, il n'y a pas de mots, quoi. J'ai pas envie de tomber dans l'injure facile, mais c'est cette bande de canailles qui dirige l'Union européenne. C'est pas qu'en France, hein, c'est vraiment, c'est honteux cette directive du retour.
Oui, bonjour. Alors, j'ai reçu votre mail à propos de Monica, voilà, qui avait été expulsée des États-Unis après 31 années de vie. À Phoenix, qu'elle croyait légale et qui en fait ne l'était pas, voilà, une histoire assez compliquée. Et je suis content d'apprendre qu'elle a pu retourner légalement chez elle, voilà, et de voir qu'on ne perd pas toujours, voilà. Merci et au revoir.
Eh ben, c'est vrai qu'on ne perd pas toujours. L'histoire de Monica, c'était en février à la frontière du Mexique et des États-Unis avec Antoine Chao et Guy Vanctil. On avait rencontré cette femme, Monica Quintero, une femme d'une trentaine d'années qui était née à Sinaloa, au Mexique. Très jeune, avait été adoptée par un couple états-unien et nous l'avions rencontrée à ce poste frontière, à Nogales exactement, et elle venait d'être expulsée des États-Unis où elle vivait depuis 30 ans, avec ses deux jeunes enfants, et elle était complètement effarée, apeurée, désorientée, et elle dormait dans la rue, sous un pont autoroutier. On avait une communication téléphonique, elle n'avait pas encore pu téléphoner à ses enfants, donc elle a pu téléphoner à ses enfants sur notre téléphone portable. On avait enregistré cette conversation qui évidemment nous avait retourné, et puis ensuite évidemment vous avez beaucoup ému, bref. Et comme elle était complètement perdue, on vous avait demandé, suggéré, proposé d'envoyer quelques menus monnaies à Monica pour qu'elle trouve un toit, tout simplement. Ce que vous avez fait généreusement, ça a servi à quelque chose, ça a abouti, elle a pu avec ses fonds qui s'élèvent exactement à 1267 euros, payer un avocat au Mexique, et elle a pu retourner, elle est rentrée aux États-Unis, elle a fait valoir ses droits, elle est rentrée aux États-Unis et elle a retrouvé ses enfants, sa famille, etc. C'est pas seulement grâce à vous, mais enfin c'est quand même en partie grâce à vous, et comme dit cet auditeur, c'est pas mal de temps en temps de se dire qu'on ne perd pas toujours. Cette histoire, comme celle qu'a évoquée Claude sur la directive de la honte, effectivement avec cet article, ce texte très beau d'Evo Morales, le président bolivien, nous conduit aujourd'hui à vous proposer de voir comment on vit dans les centres de rétention administratifs en France. Comment ça se passe? Les journalistes ne se sont pas invités dans ces endroits. Leur présence, pour tout vous dire, n'est même pas souhaitée du tout. Ça peut paraître curieux dans un pays aussi transparent. Eh bien, malgré ça, notre reporter Pascariello, y est allé et est entré dans l'un de ces centres et a montré comment on vivait, comment ça se passait. Pourquoi aussi nous parlons de ça? Cette directive de la honte, vous le savez, a été, il faut quand même appeler les choses par leur nom, a été adoptée hier au Parlement de Strasbourg par 367 voix contre 206 et 109 abstentions. En quoi consiste cette directive dite de la honte? Eh bien, désormais, les personnes qui seront arrêtées sans papier pourront résider. Je cherche les précisions exactes, c'est ça. La rétention pourra s'étendre jusqu'à 18 mois contre des personnes dont le seul crime est de fuir la misère. Également, il y a une... on pourra désormais interner les mineurs également. Donc, il y a eu toute une campagne contre cette directive. Elle est adoptée désormais. Cela dit, chaque pays n'est pas obligé de l'appliquer. Voilà, c'est comme ça. L'Europe, c'est une drôle de machine, une drôle d'usine à gaz, mais c'est ainsi. Et pour l'instant, M. Brice Hortefeux a annoncé que cette législation ne serait pas modifiée. La législation française ne serait pas modifiée. Mais enfin, tout ça, l'ensemble de tout ça fait qu'on peut comprendre que certains Européens soient un petit peu perplexes sur cette Europe-là. En tous les cas, aujourd'hui, on va voir comment ça se passe dans notre beau pays, dans ces centres de rétention administrative. Et puis effectivement, il y a cette auditrice qui a évoqué le lien entre Carla Bruni et la nouvelle star de France Inter, qui est Carla Bruni, et c'est une information dans le Canard enchaîné de cette semaine. Un journal qu'il faut lire, comme vous le savez, avec des pincettes, mais alors il faut vraiment se boucher le nez et se cacher les yeux pour éviter de lire le plan B qui vient de sortir dans c'est le numéro de juin-septembre pour tout l'été, avec comme titre « Abandonnez votre chien, adoptez un socialiste ». C'est vraiment le nouveau journal bête et méchant qui fait la honte de la presse française et de notre profession. Un dernier point concernant hier, vous avez remarqué qu'on n'était pas là, nous étions en grève pour la défense de l'audiovisuel public, non seulement évidemment la télévision, mais aussi la radio. On en parlera dans les jours qui viennent d'une façon plus détaillée, mais si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir des éléments d'information sur les raisons de cette grève, je me permets de vous conseiller d'aller sur le site Acrimed, où vous avez des éléments, les tracts, les syndicats, les arguments et des éléments pour débattre de ce sujet sur ce site Acrimed. Donc aujourd'hui, centre de rétention, éloignement forcé. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la BACI. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Marina Petrella est en danger, l'extradition serait un crime. Marina Petrella est une assistante sociale italienne, ex-brigadiste, dont le décret d'expulsion vient d'être signé par le gouvernement Fillon. Défendre Marina Petrella, c'est aussi avoir une certaine idée du droit d'asile en France et ne pas briser l'intégration physique de Marina et de sa famille. Il y a un rassemblement contre son extradition aujourd'hui, jeudi 19 juin à 18h30, place du Palais Royal, devant le Conseil d'État, métro Palais Royal. Il ne faut pas laisser tomber Marina, elle est très très menacée physiquement et psychiquement.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de l'école de votre enfant. Dans le but de mieux répondre à vos besoins et de vous permettre de parler à la bonne personne, nous vous prions d'écouter le menu suivant avant de faire votre sélection. Pour mentir au sujet de l'absence de votre enfant, faites le 1. Pour excuser le fait que votre enfant n'a pas fait son devoir, faites le 2. Pour vous plaindre de ce que nous faisons, faites le 3. Pour demander la démission d'un professeur, faites le 4. Pour demander pourquoi vous n'avez pas reçu les documents qui étaient déjà inclus dans votre lettre de convocation ainsi que les précédents bulletins, faites le 5. Et si vous voulez que nous élevions votre enfant à votre place, faites le 6. Pour demander que votre enfant change d'enseignant pour la troisième fois cette année, faites le 7. Pour vous plaindre du transport scolaire, faites le 8. Pour vous plaindre de la cafétéria, faites le 9. Si vous réalisez que vous êtes dans le monde réel et que votre enfant et vous-même devez être responsables de vos actions, vous pouvez raccrocher.
Je vous ai appelé puisque je vous ai envoyé un mail au sujet d'une demande pour
justement là, ça semble compromis hein, l'autorisation pour le CRA parce que c'est pas ouvert aux journalistes en fait.
À Lyon, on n'a pas le droit d'aller au centre de rétention.
Non, à Lyon, on l'ouvre, on l'a ouvert une fois quand Monsieur Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, était venu. Mais sinon, comme ça, non, on l'ouvre pas à la presse.
Le centre de rétention avait été ouvert seulement le jour de la visite de Nicolas Sarkozy aux journalistes.
Ouais. C'était complètement, c'était à l'occasion
de suivre Nicolas.
Nicolas Sarkozy. Pour suivre le ministre, voilà. Mais sinon, les journalistes ne vont pas à l'intérieur du CRA, non.
C'est juste pour la communication de Nicolas Sarkozy.
C'est comme ça, c'est... voilà.
Pourquoi on ne peut pas aller...
C'est une question... parce que humainement c'est pas le préfet ne reviendra pas sur cette décision.
Conditions de rétention, on respecte pas suffisamment les personnes pour que ce soit pas
Qu'est-ce que je vous dise de plus, je vais pas vous énumérer les raisons et ça sert à rien de toute façon.
Mais les raisons vous pourriez me les donner?
Ben non. Je peux pas vous les donner là parce que j'en ai pas suffisamment à vous donner. Maintenant, vous me mettez dans une situation aussi. C'est non. C'est un sujet qui est délicat qui est sensible. Donc la réponse, elle est non.
Notre métier, hein. C'est Daniel Mermet, c'est demain si j'y suis, avec Pascal Yello, éloignement forcé.
Flight number 2, arriving.
C'est pas une maison, c'est un centre de détention. C'est beaucoup moins de temps.
C'est une sorte de prison. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois et je ne sais pas comment expliquer. Je peux dire que c'est en prison parce que tout autour de moi, il n'y a que des policiers. C'est entouré avec des barrages, il y a des fils...
Barbelés,
oui. Et même les fenêtres sont bloquées de l'autre côté avec des grilles, avec des barres en fer. Je vois beaucoup de lumière. Il y a l'aéroport juste à côté, donc forcément il y a beaucoup de projecteurs. J'entends la voix des avions qui survolent.
Saint-Exupéry de Lyon,
oui,
alors.
Oui, de Lyon.
Et vous êtes avec qui dans votre chambre de centre de rétention?
Je suis avec mon mari et deux petites filles, Sarah et Léa.
Sarah et Léa, les petites filles qu'on entendait derrière vous?
Oui, c'est la petite Léa, 21 mois.
21 mois?
Oui, et c'est Sarah, 3 ans et demi.
Et Sarah, 3 ans et demi. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ce centre avec votre mari et vos deux enfants?
C'est aujourd'hui pile 21 jours.
21 jours.
Retournez l'armée!
L'étranger mineur de moins de 18 ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. Ceci est l'article 26 de l'ordonnance de 1945. L'étranger mineur de moins de 18 ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. Fin de citation. Alors, eh bien, voilà qui mobilise depuis le 26 juin 2004 RESF, Réseau d'éducation sans frontières. 2004, plus de 3 ans qu'à travers notre pays, ce réseau d'éducation sans frontières s'organise, milite, intervient avec énormément de ténacité. Car ce qu'on vient d'entendre là, cette femme avec ses deux enfants dans ce centre de rétention administrative de Lyon, il est quand même bien difficile de se dire, de se persuader que ce n'est pas la voix d'une délinquante qu'on vient d'entendre. C'est difficile d'écarter tout soupçon et de se dire que cette femme, son mari et ses enfants, cette famille d'Albanaises, a fait ce que firent nos ancêtres, nos parents, pour des milliers, des millions d'entre nous, c'est-à-dire fuir une vie difficile, impossible, pour tâcher de vivre moins mal et de donner un avenir à ses enfants. on sait l'importance capitale qu'a eu l'électorat d'extrême droite dans le succès de l'actuel président de la République. Il a fallu le séduire, cet électorat, et aujourd'hui, il faut le maintenir, cet électorat, continuer de lui envoyer des signes, car sinon, comment justifier cette politique en matière d'immigration, en matière de sans-papiers, la façon de mettre tout cela en scène, qui choque de plus en plus, qui surprend et qui indigne de plus en plus. Car évidemment que l'alternative n'est pas ça, cette voix qu'on vient d'entendre derrière des barbelés, parce qu'il s'agit bien de barbelés, c'est pas ça, ou bien l'invasion de tous les miséreux du monde qui viendraient jusque dans nos assiettes manger notre foie gras et notre dinde de Noël. C'est pas ça, tout à fait, l'alternative. On le sait, mais on l'oublie. Et en tout cas, ceux qui ont la responsabilité de parler en notre nom font mine de l'oublier. Voilà notre reportage aujourd'hui. Comment s'est vécu tout ça? Ça fait des années qu'on traite ces sujets, qu'on évoque ces sujets. Mais comment s'est vécu aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui entre des voitures qui brûlent et un pouvoir d'achat en baisse? C'est là-bas si j'y suis. Éloignement forcé. Глаза твои, мечтать свечи, и мы решили, что никто нас не заметит. Познакомили в саду Эдемова, ставила кукола, чики кремова. И глаза твои, мечтать свечи, и мы решили, что никто нас не заметит. И одна меня обледенела, губами цвета крыла цвела. Меня целуешь до забвения, я не забуду это чудное мгновение. Ты одна в меня обледенела, губами цвета граната спела. Ты меня целуешь до забвения, я не забуду это чудное мгновение. Родится я в рубашке, рубашка эта не для глажки. След простыл, покрылся серой пылью, и не родился я, чтоб сказку сделать былью. Хоть родился я в рубашке, рубашка эта не для глажки. След простыл, покрылся серой пылью, и не родился я, чтоб сказку сделать былью.
Brand à nos hommes.
Dans ma chambre.
Comme une télévision.
Il y a une télé.
Deux cravates.
Il y a deux lits superposés l'un sur l'autre.
Oui, superposés.
Et pour les enfants?
Yo.
Non.
Si, beaucoup chose normal.
Non, c'est pas pour les enfants. C'est plutôt pour les adultes.
Oui, et quand bascouard.
J'ai essayé d'arranger un peu ce type de lit de façon à ce que je puisse dormir en bas. Moi, avec les deux petites filles et mon mari en haut.
Et l'après-midi, comment ça se passe?
Il y a un groupe de policiers qui vient contrôler le soir. Il regarde que tout le monde est présent. Et oui. Après, il ferme la porte et il s'en va. Pour nous ouvrir la porte à 8h du matin. Et il nous parle avec un mégaphone en disant que voilà, vous devez être prêt, que à 8h30, vous devez prendre le petit déjeuner. Et voilà, à 8h30, on est obligé de prendre tous à la fois le petit déjeuner. Il ferme toutes les portes. Il nous demande de rester dehors 2h, 2h30. Pendant 2h30, nous devons rester.
Et quand ils sortent, ils sortent dans un...
Ce n'est pas un jardin dans le propre sens de ce mot. Donc il n'y a pas de fleurs et tout, des arbres, mais c'est un petit terrain, c'est un cours, si on peut dire. Il y a deux bancs en pierre. Et puis, il y a des fils barbelés qui entourent ce cours. Et sur les toits des maisons, il y a toujours des fils barbelés.
C'est Sarah qu'on entend ?
Non, c'est Léa.
C'est Léa, votre plus petite fille.
Parce que Sarah reste avec papa.
La Sarah et votre mari sont dehors, c'est ça, dans la
cour ?
Oui,
elle va pour manger. Et moi, maintenant, parce que m'appelait la police, elle dit, madame, vous venez pour manger. Comment faire parce que ça attend des polices derrière la porte.
Alors, on va vous laisser partir aller manger.
Mira Teresh, Connie Honeybook.
Si. Elle est passée, ma mère, elle me parle.
Vous allez m'appeler.
Désolée.
Après
je vous rappelle après.
Dotumari, ne téléphone pas.
Des locaux de rétention en France, de plus en plus nombreux, des locaux de rétention dans lesquels on passe 48 heures avant d'aller dans un centre de rétention. Pour l'instant, il n'y a que 11 centres de rétention administrative agréés pour recevoir les familles. Vous soyez sans inquiétude, on va sans doute en créer d'autres, mais on s'en occupe. C'est une activité à plein temps qui occupe beaucoup de monde. Ces éloignements forcés et ces traitements des étrangers. Et puis alors, donc, on l'entend dans la bouche de cette dame, avec cette Albanaise, avec ses enfants, Sarah et Léa, eh bien, les enfants sont de plus en plus fréquemment dans ces centres de rétention administrative. Il y a une augmentation depuis 2003, c'est constante. Depuis 2003, entre 200 et 250 enfants par an. Mais on espère faire mieux, on espère remplir les quotas. On s'y emploie, c'est une tâche nationale, un grand élan pour notre pays. Alors, voilà, on sait qu'il y a des débats pour savoir s'il faut employer le mot RAF ou non. Non, c'est abusif, etc. Un centre de rétention administratif n'est pas un camp. Mais alors, que craignent ces familles ? D'où viennent ces familles ? Et que risquent-ils de leur arriver à leur retour dans leur pays ? Voilà ce que pense et ce que dit Marie-Noëlle Fréry, qui est avocate de la famille Ali.
Vous êtes présidente de la commission des droits de l'homme au barreau de Lyon ?
Oui.
Et en même temps, vous défendez la famille Ali.
Oui.
Donc Gloria et son mari Yadouche. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer la situation de cette famille ?
C'est une famille d'origine et de nationalité albanaise qui est arrivée en France il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui a visiblement, tant monsieur que madame, largement souffert dans le pays d'exactions commises par des personnes qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites dans ce pays. Les exactions les plus graves ont été faites sur madame. Ce sont des personnes qui ont demandé l'asile une première fois, qui n'ont pas gagné devant la commission des recours des réfugiés, et qui, à l'occasion de l'arrestation par les gendarmes il y a maintenant 28 jours, ont révélé qu'ils venaient d'avoir de récentes informations concernant des agressions sur la mère de monsieur au pays, puisque des personnes violentes recherchent le fils, c'est-à-dire celui qui est actuellement en rétention. Ils ont réglé, pardonnez-moi de parler comme ça, leur compte sur la personne physique de madame et sur la personne physique de la mère. Mais ils recherchent l'homme, ils recherchent Yangouche, c'est clair.
Pour qu'on comprenne en tout cas le problème, c'est que Yadouche, qui était garde du corps d'un député socialiste,
tout à fait,
a reçu des menaces du parti.
Tout à fait. Opposé
à celui pour lequel il travaillait.
En Albanie, il y a eu une série de prises de pouvoir du parti démocratique et du parti socialiste. Et à chaque fois, on change les cadres. On change les cadres du parti, on change les officiers de police, voire on les destitue. Et on se venge sur les personnes, s'il y a de la résistance. On se venge physiquement. C'est-à-dire que la vie d'un homme, en tout cas en Albanie, la vie d'un homme ne vaut rien. Et la vie de ces deux-là ne vaut pas grand-chose en termes de protection par l'État albanais. Ils ont été placés au centre de rétention avec leurs enfants et leur demande d'asile est ce qu'on appelle examinée en urgence. Et c'est tout le drame de cette affaire, puisque je pense vraiment que dans ce dossier, et je le sais vu les certificats médicaux de médecins spécialisés, que madame a subi les pires violences qu'une femme puisse subir. Madame, Ali.
Gloria.
Oui, Gloria. Donc la mère de monsieur a été agressée au pays. Il faut essayer de prouver ça et d'expliquer ça à l'OFPRA. Et malheureusement, ils ont été arrêtés par les gendarmes et le préfet du Rhône dans les quelques jours qui ont suivi ces informations. Et au moment où ils étaient en train de faire traduire des documents, dont celui de l'hospitalisation de la mère de monsieur.
Il y a deux enfants, Léa et Sarah. Sarah, qui a 3 ans et demi, était scolarisée depuis 2 ans.
Tout à fait. Il y a d'ailleurs eu une mobilisation, les parents d'élèves, plein de gens ont été alertés sur la situation d'une famille qui mérite mieux que ce type de traitement, c'est-à-dire ce genre d'arrestation. Et le préfet a décidé de reconduire cette famille en Albanie et demande leur maintien au centre de rétention 2 fois 15 jours.
Premier mur de grillage avec des fils barbelés. À l'intérieur, il y a des préfabriqués qui doivent être certainement aussi des locaux administratifs ou des locaux où sont les policiers. Et il y a un deuxième mur de grillage à l'intérieur duquel il y a un bâtiment qui doit être certainement le centre de rétention lui-même. On dirait que c'est un centre dans le centre. Hein. Ça ressemble à un hôtel ou plutôt à une maison assez grande. Très étonnant de voir cette structure très surveillée, il y a des caméras un peu de partout et chaque fenêtre en fait a des barreaux. Juste à côté, vous avez les avions, l'aéroport. Et là, on va entendre les avions décoller parce que c'est vraiment en face de l'aéroport. Hein.
Et voilà à quoi servent les caméras de surveillance dont on se préoccupait. Là, elles trouvent toute leur fonction dans ce centre de rétention administrative où, vous l'avez entendu, les journalistes ne sont pas les bienvenus. On se demande pourquoi, s'il n'y a rien à cacher. Si on n'a rien à se reprocher, les journalistes peuvent venir. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Cependant, des élus peuvent entrer dans ces centres de rétention, formidable, merci à l'administration, et Martine Roure, qui est députée européenne et vice-présidente du Parlement européen, s'y rend ce jour-là.
Martine Roure, bonjour.
Bonjour.
On est devant le centre de rétention administratif de Lyon, à côté de l'aéroport Saint-Exupéry.
C'est un centre qui ressemble à peu près à tous les centres que j'ai visités, puisque j'en ai visité de nombreux en Europe. C'est des bâtiments assez bas en général, ce sont plutôt des préfabriqués, entourés de barbelés.
Vous, ce matin, donc, vous venez visiter le centre, vous êtes vice-présidente du Parlement européen. Et pourquoi vous venez visiter ce centre ce matin ?
On m'a dit qu'il y avait des mineurs, ce qui n'est pas normal. J'ai très rarement vu des mineurs dans les centres fermés. J'en ai vu en Belgique, mais je n'en ai pas vu dans d'autres pays. En règle générale, les familles sont gardées dans d'autres lieux, pas avec les adultes. Donc je vais essayer de voir ce qu'il en est ici.
Là, vous allez rentrer. Alors je vais vous demander d'être mes yeux, puisque moi je suis interdite. La presse n'est pas
autorisée. La presse a toujours été interdite dans tous les centres, malheureusement, mais c'est comme ça.
Donc je vous charge de me dire comment ça se passe, parce que je sais que dans ce centre à Lyon, il y a justement une famille, la famille Ali, qui est enfermée, avec un enfant de 21 mois et une petite fille de 3 ans. Madame Roure, vous venez de sortir du centre de rétention. C'est quoi votre première impression, justement ?
Ce sont des gens qui, en fait, étaient déjà intégrés, ne posaient aucun problème à notre société, au contraire même, apportaient leur propre richesse, et qui, maintenant, sont traités comme des criminels et ne comprennent pas. De plus, j'ai vu des enfants, donc, dont un nourrisson.
Alors, est-ce que c'était justement, vous avez dû voir Léa et Sarah ?
J'ai vu la famille Ali, oui, je les ai vus. De toute façon, une famille en centre de rétention et des enfants en centre de rétention ne peuvent pas être retenu, détenu, parce qu'on dit centre de rétention, mais vous savez, c'est une prison, hein, il faut quand même être très clair. Hein, et de voir des enfants enfermés en prison, on ne devrait pas le voir. Un enfant doit aller à l'école, qu'il soit français ou pas français, il doit aller à l'école. Et en France, nous y tenons à cette loi.
Voilà, c'est clair, et c'est Martine Roux, donc députée européenne et vice-présidente du Parlement européen. Une autre élue, c'est Madeleine Joran, qui est élue PC de Fontaine-sur-Saône, dans le nord de Lyon, où Sarah, la petite Sarah, la fille de Gloria, était scolarisée depuis 2 ans. C'est là qu'habitait la famille, dans le CADA. Le CADA, c'est un centre d'accueil de demandeurs d'asile, et Madeleine fait partie du comité de soutien de la famille créé par Réseau d'éducation sans frontières dans cette région.
Vous venez de sortir ?
Oui. Ben voilà, donc on a vu la famille Ali. Pour l'instant, ils sont toujours là. Les filles sont quand même toujours bien énervées.
Madeleine Joran, expliquez-moi, vous êtes élue à Fontaine-sur-Saône ?
Oui.
Qui est dans le nord de Lyon, hein ?
Le nord de Lyon, oui.
Vous venez régulièrement les rencontrer ?
Oui, parce que Madame Ali et Monsieur Ali et leurs 2 enfants, Sarah et Léa, ils habitaient jusqu'à leur arrestation au CADA, c'est-à-dire à l'ancien foyer Sonacotra, au centre d'accueil des réfugiés de Fontaine-Saint-Martin. On se relaye avec les autres membres du réseau Éducation sans frontières de Val-de-Saône-Rieux. C'est très important de garder le contact, de montrer qu'on fait quelque chose pour eux, que jusqu'au dernier moment, nous aurons l'espoir de les sortir de là.
Camion, hein.
Bah, expliquez-moi, là, en tout cas, on va
sortir aux Échets pour rejoindre le plus rapidement possible Fontaine-Saint-Martin. Nous irons faire un tour au CADA, c'est-à-dire le centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est l'ancien foyer Sonacotra, mais sont logés dans une aile toutes les familles qui ont fait une demande à l'OFPRA ou à la commission de recours des réfugiés qui attendent la réponse.
Et on va aller voir donc où habitait la famille Ali.
Voilà.
Puisqu'elles ont été, la famille Ali a été arrêtée
ensemble,
dans son foyer.
Nous étions au moment de l'arrestation, nous avons bien été une bonne douzaine, 12 à 15 membres du comité de soutien. Nous sommes arrivés sur le coup de 7h30, 8h moins le quart. Gloria avait passé un coup de fil et donc aussitôt on avait fait une chaîne. Ils ont appelé des renforts. À un moment donné, ils étaient quelque chose comme une vingtaine de gendarmes. L'arrestation a duré de 7h30 jusque vers 11h30, où finalement les alliés ont été embarqués dans le camion pour le centre de rétention, et où tout le monde a été extrêmement choqué parce qu'on ne pensait pas que dans ce foyer, on allait arrêter sur place les gens au petit matin.
7h30.
Alors justement, vous qui intervenez, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes ?
Qui je suis ? Moi, je m'appelle Félix, hein. Pierre, j'aide par humanité, parce que moi je suis fils d'immigrés aussi. Hein. Mon père a fait de la résistance à FTP Moy. Il a fait la guerre d'Espagne avec les républicains espagnols.
Rappelez-nous ce qu'était la Moy, justement.
Les mouvements...
Les ouvriers immigrés, c'est ça, hein ?
Oui, qui étaient dans la résistance. Mon père, c'était un Italien, né en Allemagne.
Italien, né en Allemagne.
En Allemagne, et ses parents travaillaient dans des briqueteries en Allemagne. Puis après, ils sont venus en France et ils sont venus dans les années 1920 et quelques. Et j'ai des photos, ils étaient pieds nus. Mon papa, il était conducteur de travaux après à Lyon, dans la maçonnerie. Hein. Et il a fait... Bon, après, il était au Parti communiste italien. Ils ont fait de la résistance. Ils ont fait la libération de Nice, mon père. Ils ont déclenché avec les FTP de là-bas. Mon père, il faisait partir les soldats italiens dans la résistance. Donc il est mort, il avait 36 ans. Il avait laissé une veuve avec trois enfants, dont un fils et 2 filles. Moi j'avais 5 ans, ma petite sœur 3 ans et la grande 13 ans. Moi je suis retraité, bon. Je travaillais, j'étais employé à la Générale des Eaux. Je faisais l'entretien, la maintenance des réservoirs et et du matériel de pompage.
Voilà le
foyer. Voilà le foyer où nous arrivons. Là.
Donc là, on rentre dans le foyer, voilà. Là où habitait la famille. Donc là, on rentre, c'est quoi ici, Félix? De la chambre 74 à 78.
C'était là qu'ils étaient. Là. Alors, ils ont des chambres.
Un appartement regroupe plusieurs chambres.
Ah bah oui. Et puis là, ils ont une salle d'accueil. D'ailleurs, le four que vous voyez là.
Le four
leur appartient.
Ah, il y a encore toutes leurs affaires?
C'est à eux, non. On a enlevé, mais il y a des affaires qui sont restées. Ça, on pouvait pas y emmener là-bas. Hein. Plein de choses, c'est ça.
Ça moi, c'est ça quoi, fait, c'est moi, cette petite voiture pour enfants, ça vous...
Ouais.
Félix, expliquez-moi.
Mais je peux pas. C'est trop dur. C'est dur. Je sais pas, ces gens, ils sont comme tout le monde, ils ont le droit de vivre.
Et qu'est-ce qui vous a ému autant, c'est le fait de voir encore des...
De voir ça, puis se rappeler ce qui s'est passé. Ils sont allés là-bas, hein, ouvrir.
Vous voilà. Vous rappelez de la police, vous étiez là
bah, on était là le matin, on m'a appelé le matin pour venir. Puis ça fait de la peine, gros. C'est pas normal, gros. On les connaissait bien, puis je suis pas bien. Voilà. C'est tout.
D'accord, vous enfants. Étiez voisine avec Gloria?
Oui.
Il y a personne qui habite dans le champ? Personne.
Personne n'habite dans le...
Ils ont changé les portes, hein? Hein?
Oui, changé.
Ils ont changé les portes, voilà.
D'accord, donc tu imagines c'est fermé, hein?
C'est tout fermé. Oui.
C'était là.
C'est une clé.
C'est la première fois que vous revenez depuis l'arrestation?
Non, je suis revenu, mais bon, c'est...
Une fois pour déménager les affaires de Gloria... Mais c'est vrai que c'est plus la même chose que quand on venait au cadavre. Avant, on venait joyeux, on venait les voir, on mangeait un peu avec eux, on discutait. On...
Là, moi, je vous disais, moi, ça me fait mal. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Je suis nature, moi. Hein, je suis comme ça. Ma mère, bon, quand ils sont venus, mes grands-parents du côté de ma mère, ils sont venus parce qu'ils ont été travailler dans les mines de fer. Hein, et ma mère travaillait dans le textile. Et bon, comme mon père a fait de la résistance... Non, ma mère, tous les 10 ans, elle allait tamponner sa carte aux affaires étrangères, enfin, au truc des étrangers, à la préfecture, hein. Voilà. C'était pas pareil. La vie était pas la même. Là, c'est plus dur. Sarkozy, qui se dit immigré hongrois, qui vient... Faut regarder derrière lui, pourquoi il est venu aussi. Pourquoi, et puis... Ces gens, ils sont là, c'est pour vivre. Ils font de mal à personne. Je sais pas, on a le droit de vivre. Travailler, c'est de vivre. Voilà.
Et comment ça se fait que vous étiez là le jour de l'arrestation?
Parce qu'on m'a appelé.
Parce qu'en fait, c'est...
On a un petit réseau qui fonctionne, hein.
On a fait un premier parrainage, c'était en juin, début juillet 2006, hein, c'est ça. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était les premiers qui ont eu des problèmes, qui ont eu des refus de recours auxquels ils ne s'attendaient pas. Et donc, on a fait un parrainage, il y avait un comité de soutien qui s'est mis en place à l'école de Fontaine-sur-Saône, c'était le premier. Et à partir de là, on est venu régulièrement les voir. Puis les voyants, on a rencontré les uns, rencontré les autres. Puis après, on est quand même, on vient une bonne vingtaine, rien que dans le secteur, à se relayer. Et quand ils ont refus de la commission de recours, ben...
C'est quoi l'objectif de ta visite, en fin de compte? C'est de voir un peu comment ça fonctionne dans...
Un centre de rétention.
D'accord.
Bon, comment est un centre de rétention? Est-ce que vous deux, vous êtes policiers?
Absolument.
Donc, un centre de rétention a une capacité d'accueil de 140 personnes. Et ici, donc, on a une capacité d'accueil de 200 personnes. Retenue administrative, je parle.
Ben ça, c'est la volonté gouvernementale d'augmenter les capacités, de doubler les capacités pour retenir les étrangers en situation irrégulière afin de les renvoyer dans leur pays. Donc ça, c'était une volonté de Nicolas Sarkozy. Et donc obligatoirement, on était obligé d'agrandir les centres de rétention.
Le centre de rétention mobilise pratiquement 500 fonctionnaires de police. Pendant leur année de formation à l'école de police, n'y a pas vraiment de module spécifique pour le centre de rétention. On leur apprend le bloc de la police judiciaire, les techniques d'intervention, d'interpellation, etc. Après, le centre de rétention, c'est un tout autre métier. Elle ressemble plus à un gardien de la pénitentiaire.
Bon, l'administration, l'État voit la chose différemment. Ils doivent manquer certainement de gardiens de prison.
Bon, on va aller visiter le centre où ça va être en micro caché.
Toi, tu vas porter ça pour moi.
Ouais, je vais porter un badge de la police.
Et maintenant que t'es collé, il faut me tutoyer.
Il faut vraiment que je vous tutoie.
Ah oui. Ah ben oui, vous avez tout compris. Il faut qu'elle apprenne à tutoyer le monde, notre Pascal Pascarillo, parce que là, avec ses deux policiers et son micro caché, elle va entrer dans ce centre de rétention administrative, donc à Lyon.
Eh bien, on quitte notre bureau et puis on va se diriger vers le centre de rétention.
Allez, go.
Tu vois, le centre, c'est un bâtiment. Il ne faut pas confondre retenus et détenus. Hein. Là, ils sont retenus, donc ils sont libres dans un espace fermé. C'est-à-dire que le centre est entièrement fermé. On va dire un peu comme une prison pour pas qu'ils puissent s'échapper, on va dire.
Un peu comme une prison.
Pour pas qu'ils ne puissent fuguer. Un retenu ne s'évade pas, il fugue. C'est le statut juridique qui n'est pas le même.
Et dans la pratique ?
Dans la pratique, c'est pareil.
Par ici, tu as le bâtiment administratif qui gère le centre de rétention.
C'est dans le bras cassé.
Tu peux lui expliquer en quelques mots là ton boulot au CRA
En fait, il y a quelques missions. Donc, tu as les points. Ouais. Tu es soit dans des guérites, tu fais aussi les tribunaux. Donc, c'est-à-dire que tu vas amener les mecs au tribunal administratif.
L'ambiance ici, c'est pas trop tendu entre les collègues et puis les retenues, comment que ça se passe un peu ?
Non, bah, y a des périodes en fait. Hein. Là, je sais qu'on est sorti d'une période où il y avait pas mal de bagarres. Il y avait au moins une bagarre par jour. Et puis après, ça dépend des personnes. Ils sont au maximum 32 jours, je sais pas si on te l'a dit. Donc généralement, ils font 15 jours et ils sont prolongés. Donc quand ils reviennent là, c'est vrai que des fois, ils sont pas contents quand ils passent au cours d'appel ou au juge des libertés. C'est l'été. Puis après, c'est aussi là, il y a eu pendant le ramadan. Il y a aussi, après, ça dépend avec certains retenus. T'en as,
ils sont séparés par nationalité un peu.
Voilà, t'as les Chinois d'un côté, ouais. T'as les Maghrébins d'un côté, t'as les Blacks d'un autre. Tu peux être à l'accueil, aux visites. Je t'ai pas parlé de ça, mais.
Ouais, j'entendais, il y avait un haut-parleur là qui appelle les familles.
Voilà, c'est ça, c'est la GEPSA. C'est une entreprise qui est là pour gérer un peu tout ce qui est repas.
La quoi ?
La GEPSA.
C'est le privé qui fait ça ?
Ouais,
d'accord.
Les repas, on les surveille, par exemple.
Les repas, vous les surveillez.
Tu feras du bitume si tu viens ici. Hein.
Là, t'as des caméras, si tu veux.
Vous avez des caméras partout, je pense.
Ouais, il y en a pas mal.
Il y a au moins une dizaine d'écrans, là.
Un peu plus.
Tu étais de quel promo ?
11.
Ah ouais, tu viens d'arriver.
Ouais, je suis arrivé en septembre. Ouais,
t'es sorti il y a pas longtemps ?
Ouais, il y a 3 mois.
3 mois à peine de l'école, t'es sorti.
Ouais. D'accord. Donc, pareil, ils voulaient des arrivées de gars parce que... Quand ça chie, bah, malheureusement, il faut...
Au mieux que ce soit des garçons.
Voilà. Parce que justement, par rapport aux fouilles, tout ça, il y avait un roulement et les femmes ne peuvent pas fouiller les mecs, donc forcément, bah, on reste.
Allez, je vous laisse.
Tu viens ?
Voilà comment ici, la jeune policière, entre guillemets, Pascal Pascariello, qui est entrée dans ce centre donc, de rétention de Lyon, grâce au concours de policiers, il faut bien le dire, et auquel vous comprenez, tout ça ne plaît pas vraiment, qui ont, comme qui dirait, des états d'âme.
Wu Yi Zhou, Wu Yu Zhou, chinois. Wu Yu Zhou, chinois. Monsieur Zhou, Jun Kyo, chinois. Zhou Jun Kyo, chinois, à l'accueil.
Mais dis-moi, là c'était étonnant quand même le haut-parleur avec quelqu'un qui disait chinois.
Monsieur Tiam.
Mais l'aspect extérieur, les barbelés, le grillage, peut donner ce sentiment de camp.
Les spots aussi, parce qu'on a des spots la nuit là qui éclairent tous les chemins, tous les accès, qui éclairent fortement. Hein. C'est des gros spots halogènes là. C'est pas des lumières d'ambiance.
Qu'est-ce que tu t'en penses quand il dit que ça ressemble à un camp ?
Bah, c'est peut-être l'aspect des bâtiments eux-mêmes.
Hein. Monsieur Tiam.
Ce sont les barbelés qui donnent ce sentiment, mais...
Camp de quoi ? Camp de vacances ? Bah, je sais pas. Hein.
Camp de rétention ?
Bah, quand, c'est un centre de rétention.
La limite est fine. Hein.
C'est clair.
Monsieur Milin,
Il n'est pas là. Il n'est pas là, bonne visite. Je ne vais pas aller le chercher. Je sais que...
Là, qu'est-ce qui se passe?
Bah ici, là, t'es l'emploi numéro 2. On s'occupe des visites, parce qu'à ces gens-là, en fait, c'est que de la rétention administrative, donc c'est que de l'administratif. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de se barrer.
Monsieur qui il est en centre de rétention, ouais.
Il est égyptien.
Il y a un traducteur ou...
Non. D'accord. On se débrouille comme on peut. Et ça, c'est pas à nous, c'est la société égyptienne.
Attends, alors la société privée, bureau justice.
C'est une société privée qui a des retenues.
Vas-y, explique-lui ce que tu fais à la.
Moi, c'est vraiment avec collègues. Nous, ici, c'est une boîte privée qui gère les postes d'accueil. Donc, nous, on est là avec différents personnels. On appelle les gens au micro, on ouvre les portes, on donne tout ce qui est hygiène. Nous, c'est vraiment une boîte privée. On est là, on fait le tampon entre la police et les retenues.
Avant, c'était, tu me disais, explique-lui que c'était.
Avant, c'était le ministère de la Justice qui travaillait. C'est vrai que quand on voit tout ce monde dedans, on se dit, oh, qu'est-ce que je fais ici? C'est un peu. Parce que moi, des fois, je me disais, je suis dans un hall 93 quand j'arrive là-dedans.
Ah oui, là, c'est ton bureau aussi, hein, c'est ça?
La deuxième téléphone. Ça arrive, 2 minutes. Je vais venir. En tout cas, faut rester à la première, image, c'est un peu ghetto.
Mais après, c'est une habitude, hein, franchement.
Parce que là, il n'y a qu'une vitre qui nous sépare d'eux, et ils sont tous agglutinés derrière la vitre.
En tout cas, faut pas se faire première idée, je veux dire, c'est pas ça.
Faut pas que c'est impressionnant. Voilà. Mais les gens qui ont des problèmes, il y a une pièce où tu les retiens particulièrement?
Alors, des cas particuliers, des énergies ou quoi.
Des gens
psychologiquement qui sont un peu par rapport aux autres, on les met à l'écart. Par exemple, comme lui qui est là-bas, là, c'est un SDF, il attend derrière la vitre. Il est un peu bizarre, il couche par terre, il mange dans les poubelles, enfin des trucs comme ça. Bon, lui, ça va, il n'est pas agressif, rien. Mais si un mec est agressif, on le met à part, comme ça on sait le gérer.
Et
s'il
est SDF, pourquoi il est là?
Alors, bonne question, parce qu'il n'a pas de papier, c'est tout, mais sinon, voilà. Ouais. Quoi. Des fois, ils ne font pas le
prix. Attends, Amel, c'est Nico. Voilà.
Franchement, non, c'est.
Les retenues, tu peux m'expliquer, ils tapaient à la fenêtre quand on était dans le bureau. Hein.
C'est-à-dire, ils ont soif, ils ont faim, il y a la télé qui est tombée en panne, ils ont envie d'aller aux toilettes, donc obligatoirement, ils appellent un responsable pour se faire accompagner.
Mais il y a une toute petite fenêtre en plastique et c'est là où ils viennent taper, quoi, puisque c'est séparé.
Ils sont dans la salle, dans l'heure, le centre.
Il n'y a pas de porte communicante, quoi. C'est une pièce où on vient taper à la fenêtre, quoi.
Voilà. C'est fermé.
Une sorte de parloir séparé par une vitre.
Incassable.
Et puis ils viennent demander à la personne de cette société là, ce qu'ils ont besoin.
Il y avait un monsieur qui tapait à la fenêtre en disant « Libérez-moi, ça fait 22 jours que je suis dans le centre ».
C'est-à-dire quand une personne vient de l'extérieur, qui n'a jamais mis les pieds dans une maison carcérale, c'est vrai que ça peut sembler toujours étonnant de voir des gens comme ça agglutinés derrière une vitre, en train de taper pour aller aux toilettes ou demander à manger ou à boire. Donc c'est vrai que ça semble choquant. Ce sont des gens qui sont là, qui sont calmes et qui demandent simplement à pouvoir bénéficier du minimum vital. Mais bon, ils ne sont pas torturés. Maintenant, on pourrait pas vivre comme ça indéfiniment dans ces conditions, effectivement, il faut le reconnaître.
Merci à tous. La suite demain de ce reportage de Pascal Pascariello. Merci à Gloria Yandouchali, à Gilles Viard du syndicat de la police SGPFO, à Madeleine Joran et à Felice, à Marie-Noël Fréry, à Sylvie Chancel de la CIMAD et à Artan Courta pour la traduction des renseignements. Vous pouvez en trouver de précieux sur le site de la CIMAD, www.cimad.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Christian Thibaudeau. Yann Chouka et Koyen Nguyen ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Humbert qui s'y colle au répondeur de là-bas, si j'y suis, dont le numéro est, vous le saviez bien, 01 56 40 37 37.